Bonsoir, bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'un livre qui, je dois le dire, a ensoleillé ma fin d'été. Un livre qui m'a fait souvent éclater de rire. Et ça, les romans noirs, ça paraît drôle, mais ils savent souvent très bien le faire, même ils sont souvent très intelligemment drôles. Ce livre s'appelle Le Festin d'Alice. Il est paru récemment chez Fayard Noir et son auteur en est Colin Thibert. Et nous avons le plaisir de recevoir Colin Thibert sur notre antenne. Colin Thibert, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Donc avant de parler du Festin d'Alice, une très, très courte biographie, puis vous m'arrêtez si jamais je dis des bêtises. Vous avez D'accord. donc commencé comme dessinateur de presse.
Oui.
Ensuite, vous avez commencé à écrire des sketchs pour la radio et la télé, et enfin des scénarios.
Voilà, oui.
Et puis j'ai l'impression de moins en moins de scénarios pour vous consacrer plus à l'écriture de romans noirs.
Oui, on peut dire ça.
Voilà, en 2001 est sorti votre premier roman noir qui s'appelait Noël au balcon, puis Royal Cambouis, Nébuleuse.org, Barnum TV, K1KO, tout cela à la série noire.
Ouais.
Vitrage à la corde, un subtil jeu de mots, je ne sais s'il est de votre part ou de celle du cerveau enfiévré de Jean-Bernard Pouy pour un hommage à la défunte série noire.
Voilà.
Et puis donc, chez Fayard Noir, Le Festin d'Alice, donc un roman avec en couverture un plat chinois, donc on va voir un petit peu pourquoi. Et avant de parler plus de ce livre, on avait déjà été étonnés et très agréablement surpris de Noël au balcon avec un humour très corrosif et un point de vue très très particulier. Est-ce que c'est votre carrière de dessinateur de presse qui vous fait voir les situations toujours par ce petit bout de la lorgnette un peu particulière ?
C'est pas impossible en fait, oui. J'avais jamais vraiment réfléchi à ça, mais c'est pas faux effectivement. Dans la presse, il fallait essayer de saisir en lisant un article, en sortir la quintessence et ce qui pouvait être drôle. Et quand je faisais beaucoup de dessins, je dessinais beaucoup dans des revues techniques à une époque, en informatique entre autres, trouver un truc marrant sur l'informatique, c'était pas toujours évident. Donc voilà, c'est peut-être oui, ça vient peut-être de là, c'est pas exclu.
Donc justement, chercher le côté drôle de certaines situations, j'aimerais que vous nous parliez du début de ce roman qui démarre en fanfare. Donc une descente de police dans un appartement ravioli. Qu'est-ce donc ?
Voilà, bah, il semblerait qu'il y ait en tout cas à Paris, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais des endroits où des gens, alors des Chinois en l'occurrence, ou des gens qui viennent d'Asie, font de la cuisine pour les traiteurs. C'est une sorte de traiteur en chambre, ils revendent après à des restaurants. Alors, bon, c'est plutôt rigolo, en fait. Le problème, c'est que c'est pas toujours, évidemment, les normes d'hygiène ne sont pas toujours respectées. Parfois même, elles sont carrément bafouées. Et voilà, bon, donc la police et la direction générale de la concurrence, etc., des prix, enfin, qui porte un acronyme
DGCCRF.
Oui, voilà. C'est ça. Ces gens-là traquent évidemment ces cuisiniers clandestins pour notre santé à tous. On peut pas le leur reprocher non plus. Mais je trouvais que la démesure d'une descente de police, parce qu'il y en a eu de vrais, par rapport au délit que ça représente, était un petit peu assez comique, et source de comique en fait.
Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que cette scène dure et est complètement délirante. Donc comment vous travaillez un petit peu ? Donc on part de cette, comme diraient les professeurs de lettres, cette situation initiale, une descente de police dans un appartement de ravioli, mais là, vous enjolivez, plein de personnages interviennent. Comment vous travaillez ces scènes ? Est-ce que c'est aussi votre, je dirais, talent de scénariste préalable qui vous aide à imaginer ?
Je sais, oui, peut-être, je sais pas, je suis assez observateur de nature, donc quand je me balade dans Paris, je vois beaucoup de choses, j'enregistre beaucoup de choses, il y a plein de petits détails comme ça qui m'amusent, que je note dans un coin de ma tête. Le jour où je suis en train d'écrire, ça ressort de manière assez naturelle, en fait. Et puis là, bon, ben, il y a un caractère le commissaire se prend un petit peu pour plus qu'il n'est. Il est moyennement sympathique, il veut en faire beaucoup, voilà, donc tout ça prend une sorte de démesure, et ça gagne. Voilà. Et puis, alors, j'avais besoin de placer en plus les deux héros de l'histoire qui se sont rencontrés pour la première fois lors de cette descente. Donc, ça leur donnait un cadre un peu inattendu pour le début d'une histoire d'amour, puisqu'il y a une histoire d'amour.
Voilà. Alors, donc, avant justement de parler d'Alice et de Jean-Luc, les deux, on va dire, personnages principaux, moi, je voudrais lire un petit peu, parce que vous aimez aussi à certains dialogues très savoureux et parfois complètement délirant, et ça va me donner l'occasion de dire des gros mots à la radio, chic. Voilà, petit extrait du début. La vieille chinoise, qui n'a pas cessé de jacasser tandis que Jean-Luc traduisait, monte en puissance. Les mots sonnent maintenant comme des coups de gong. J'ai la sensation que vous ne traduisez pas tout, monsieur Niederstoffen. C'est exact, monsieur le commissaire. Je peux savoir pourquoi? Parce que ce n'est pas très intéressant. C'est à moi d'en juger. Traduisez, c'est un ordre. Eh bien, cette dame vient de dire en substance... Couille de Vera, pine de dragon, le zob du mandarin dans le cul du sodomite des Carpates. Il faut un temps au commissaire pour assimiler le chapelet d'horreur qu'il vient d'entendre. Il articule lentement. Je vous demande pardon. Elle nous traite également de tête de bite, de sac à merde et de résidus syphilitiques. Le chinois peut être une langue très imagée, voyez-vous. Le commissaire pâlit. Expliquez-lui ce que nous entendons en droit français par « insulte à magistrat dans l'exercice de ses fonctions », lâche-t-il d'une tombe polaire. Je crains que cette subtile notion ne la dépasse un peu. Voilà, et donc intervient Jean-Luc. Jean-Luc, c'est un de vos personnages qu'on va retrouver tout au long du roman, qui va vivre une belle histoire d'amour, je ne sais pas si on peut dire belle. Alors, parlez-nous
en tout cas, une histoire d'amour, oui.
Voilà. Parlez-nous un peu de Jean-Luc. C'est un ex-chercheur du CNRS ?
Oui, ben Jean-Luc, je l'aime bien, Jean-Luc. Il est sympathique, il est honnête, il est un peu malheureux, il s'est mal débrouillé dans la vie, il n'a pas tout compris.
Ah non.
Et il est sincère, et puis voilà, et puis il étudie des choses qui n'intéressent plus personne aujourd'hui, donc il s'est retrouvé privé de ses recherches. Donc il faut bien vivre, alors il traduit, il est devenu interprète officiel parce qu'il connaît bien les dialectes, enfin les langues qu'on parle en Chine, plusieurs langues, il est très doué. Mais tout ça fait sans grand enthousiasme.
Ah, vraiment sans grand enthousiasme, et en plus il n'est pas du tout reconnu parce qu'en fait c'est un homme très intelligent, et quand il se heurte à ce genre de commissaire ou d'autres flics autour ou certainement d'autres personnages, bah, il est très malheureux parce qu'il est quand même un incompris.
Voilà, ça peut pas marcher. Ils sont dans des mondes, ils vivent dans des mondes différents où il n'y a pas, la compréhension ne passe pas. C'est terrible.
C'est terrible. Alors, peut-être va-t-il être compris par Alice. Alors, nous avons Alice qui arrive dans cette scène, une beauté incendiaire, qui est au départ humble fonctionnaire. Je crois qu'on peut dire ça. Elle n'est pas très, très élevée dans cette direction générale contre la répression, enfin, je ne sais plus, DGCCRF.
Oui, voilà, c'est un fonctionnaire de petit échelon.
Voilà, tout petit échelon, elle vient faire ses petits prélèvements, mais dans les prélèvements, elle trouve d'abord un peu d'argent, et puis un petit carnet, plein d'adresses de personnes qui ont fait des choses très, très bizarres. Alors, Alice, c'est pourquoi vous l'avez voulu autant femme fatale ? Parce qu'elle est d'une beauté incroyable.
Mais en fait, c'était pour faire pendant au roman noir qui avait précédé, qui était Cain Chaos, dont l'héroïne était d'une stupéfiante laideur.
Laideur, oui, elle était très laide.
Cette laideur lui permettait d'ailleurs d'échapper à pas mal d'horreurs pendant la guerre, parce que personne ne s'intéressait à elle. Donc c'était finalement un petit peu une chance quelque part. Et du coup, je me suis dit, dans le prochain roman, je vais avoir une fille d'une beauté renversante. Et en travaillant un petit peu là-dessus, je me suis dit qu'après tout, c'était pas forcément un cadeau d'être d'une beauté renversante pour une femme. Il devait y avoir pas mal d'inconvénients, et j'ai commencé à m'amuser sur ce thème.
C'est une idée qui me rassure beaucoup, d'ailleurs. Bon. Donc, petit extrait pour décrire Alice Delain. Très court. Lorsqu'Alice Delain était apparue dans son bureau pour un premier briefing, le commissaire Argouge avait éprouvé un léger vertige. Jamais, auparavant, il lui avait été donné de voir une femme aussi belle d'aussi près. L'inspecteur de la DGCCRF offrait au regard des traits et des proportions admirables. Ses gestes étaient gracieux, sa voix ensorcelante, son sourire dévastateur. Elle était comme ça, elle n'y pouvait rien. Elle détenait, bien malgré elle, le pouvoir d'enflammer instantanément et durablement le désir des hommes qu'elle croisait, tous âges confondus. Le commissaire n'avait pas fait exception à la règle. Depuis leur rencontre, il ne dormait plus il ne pensait plus qu'à elle. Donc ça fait quand même un petit peu penser aussi à cet imaginaire qu'on retrouvait des femmes fatales dans les films noirs des années 30-50, Véronica Lake, Ava Gardner, ces femmes absolument sculpturales. Vous en êtes un
petit... Oui, bien sûr, mais en fait, ceci dit, je me suis beaucoup amusé avec cette histoire, parce que en fait, je ne décris jamais Alice au... Alors, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai tenté de la décrire, et je me suis aperçu que ça fonctionnait pas, ça marchait pas, c'était ridicule, c'était convenu, ça n'allait pas. Donc je me dis que finalement, en suggérant qu'elle était, je ne fais que suggérer qu'elle est d'une incroyable beauté, et l'imagination du lecteur fait tout à fait bien le travail.
Oui, parce qu'on sait
chacun
pas
se met à voir une femme extraordinaire, alors que je n'ai finalement pas dit grand-chose, je ne sais même pas si j'ai donné la couleur de ses
non.
cheveux.
Non, on ne sait pas si elle est blonde, brune, ce qui...
Eh bien, si à un moment je dis qu'elle se fait, oui, elle se teint en blond pour une raison précise, mais donc on peut supposer qu'elle n'est pas blonde.
Elle n'est pas blonde, oui, ça y est. Ça.
Mais j'ai évité les détails justement pour que chacun se fasse cette image, et c'est rigolo parce que on peut mettre l'actrice de son choix finalement.
Voilà, et puis penser à quelques vengeances, mais vous y pensez vous-même, donc c'est très bien. Et donc justement, on a l'impression au fur et à mesure, depuis Noël au balcon, mais surtout dans le troisième roman, que vous avez vraiment envie, l'envie d'écrire, c'est l'envie de parler des personnages, l'envie de créer des personnes, des personnages à qui va arriver quelque chose. Mais on sent chez vous vraiment une envie de décrire ces personnages. C'est une idée vraie, une idée fausse ?
Oui, non, c'est vrai, j'adore ça. J'aime bien les... Alors, je ne sais pas si j'aime bien les gens, j'en suis pas totalement sûr, mais j'aime bien les décrire, en tout cas. J'aime bien les... ou les imaginer, les façonner, ou prendre plusieurs personnes pour en faire une seule. Enfin bon, c'est un jeu plaisant. Mais c'est vrai que je suis toujours fasciné par la diversité des physiques, des caractères, des comportements. On s'en lasse pas.
Mais
et c'est merveilleux de les faire exister dans un bouquin.
Voilà, on sent quand même que, comme vous venez de le dire, on sent quand même que vous devez beaucoup les aimer, ces personnages. Parce que d'un côté, ils nous font beaucoup rire, mais d'un autre côté, vous les faites jamais tomber dans une caricature qui serait totalement vaine. En fait, ils sont souvent craquants quand même. On a toujours des failles, on a toujours... même les pourris là-dedans, ou alors ils sont complètement grotesques, comme les tueurs de la mafia. On y arrive, parce qu'on va arriver.
Oui, bon, il y en a qui sont vraiment sommaires, là. Les très, très méchants sont vraiment, on peut pas les sauver, mais les autres, même le caïd, on dit en anglais son soft spot, son petit coin tendre. Les gens sont souvent comme ça, d'ailleurs. C'est pas, les gens sont rarement d'une pièce tout bon ou tout méchant. Il y a des tas, c'est complexe, et c'est ça qui est plaisant.
Et c'est ça qu'on retrouve souvent dans le roman noir, c'est-à-dire ce non-manichéisme et cette idée de piocher dans l'univers très complet des personnages et dans leur âme souvent tourmentée, on va dire.
Voilà.
Alors justement, on va peut-être aborder quand même un petit peu, un peu plus le sujet. Et puis, on s'en pointe quand même un sujet très sérieux. Alice, dans ce petit carnet, trouve des adresses de gens qui apparemment... pourrait peut-être aimer croquer du genre humain, mais au sens littéral du terme. Et donc, avec Jean-Luc, qu'elle séduit très facilement, qui tombe amoureux éperdument d'Alice, ils vont essayer de faire chanter ces gens-là, et ils vont tomber en plein milieu de la mafia chinoise. Et là, on voit poindre des petits personnages qui vont venir, qui vont peut-être disparaître. Et là, vous abordez un sujet sérieux. On va dire peut-être les sans-papiers, en tout cas ceux qui sont complètement, exploités par des passeurs, les Asiatiques qui arrivent pour travailler dans des conditions absolument inhumaines. Donc c'était ça que vous aviez envie de traiter quand même dans ce livre ?
Il se trouve que le livre m'a amené à parler de ça, et du coup je me suis un petit peu non, au départ j'avais pas du tout pensé parler de ça, puis ça s'est trouvé parce que les chemins se croisent et que c'est de ça qu'il s'agit aussi, et que dès qu'on creuse un peu, c'est assez effrayant effectivement de voir tout ce qui se passe et la manière dont ça se passe. Et en fait, c'est pour une fois, je dirais, c'est un roman qui est relativement documenté. Ceux d'avant étaient reposés plus sur une fantaisie plus ou moins débridée. Celui-là est fantaisiste aussi, mais avec quand même des... Il s'appuie sur pas mal de choses.
Oui, on voit quand même que vous avez un petit peu pioché le sujet, si ce n'est des nems, tout au moins des filières et de ce qui doit certainement être vrai certainement que vers Paris. Sur la Côte d'Azur, bien sûr, on ne saurait parler de mafia, mais bon.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai les chiffres, j'ai tous les chiffres sur Paris, c'est assez impressionnant. À un moment, je crois que j'en ai cité un d'ailleurs, qui était la population asiatique et qui est assez considérable, et le fait que la police ne s'y retrouve pas, effectivement. Oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à les distinguer les uns des autres, parce que les noms sont compliqués, et que tout est fait à dessein aussi pour brouiller les pistes. Donc ça, c'est assez troublant et assez excitant pour un auteur aussi, il faut bien le dire.
Voilà, donc on va laisser au lecteur le soin de découvrir les multiples personnages et puis la fin de cette histoire qui va jusqu'au bout être drôle, jusqu'à une on va dire, une espèce d'entourloupe finale. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement, vous nous faites rire depuis Noël au balcon, mais est-ce que finalement, vous n'écrivez pas quand même des romans noirs pour nous montrer un peu une vision, on va dire, plutôt désabusée du monde ?
Oui, c'est sûr, mais j'ai une vision très très désabusée, mais ça n'empêche pas de rire. Et c'est bon, à peu près la seule défense que j'ai trouvée, d'ailleurs, personnellement. Mais,
c'est pas très gay, à montrer. Justement.
Je décris simplement ce que je vois, ou du moins ce que je pressens, ou ce dont j'ai entendu parler. Et puis, il se trouve que c'est souvent très noir, oui, parce que la vie est souvent très noire, oui.
Alors, pour en revenir à ce livre comme aux autres, comme je l'ai dit au début, vous avez pas mal œuvré dans les scénarios. Est-ce que vous êtes tenté un jour de faire un scénario à propos d'un de ces livres ? Et moi, je verrais très bien le Festin d'Alice. J'ai d'ailleurs un casting tout prêt. Bon, je ne vous le proposerai pas. Mais est-ce que ça vous tente de vous lancer dans le scénario d'un de vos écrits ?
Disons que le seul qui ait été adapté pour l'instant à l'écran, c'était en l'occurrence Vitrage à la corde.
Vitrage à la corde,
comme je n'étais pas le bienvenu pour m'occuper du scénario, puisque l'éditeur en avait apparemment décidé ainsi, j'ai un petit peu regretté quand j'ai vu le film de ne pas m'en être mêlé maintenant.
D'accord. Moi, quel est le conseiller, puisqu'il est sorti en DVD il y a peu de temps ?
C'est aux spectateurs de se faire leur opinion, mais bon, c'est un principe de dire c'est, en France c'est le réalisateur qui est maître, c'est le maître à bord et il fait ce qu'il veut. Si je rencontrais un réalisateur avec lequel je puisse travailler, ce serait un plaisir.
Voilà, bah, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui
vous
écoutent.
On verra.
Voilà, donc on va bientôt finir cette première partie d'émission. Donc je vais rappeler le titre et l'éditeur du roman. Donc Le Festin d'Alice, Colin Thibert était avec nous pour nous parler de ce livre. Et c'est publié chez Fayard Noir. Colin Thibert, merci beaucoup. Bonsoir.
Merci Corinne.
Au revoir.
Au revoir.